RCF.
h 10 sur RCF et c'est une émission spéciale 18-19 régionale que nous vous proposons ce soir.
Bonjour à toutes et à tous, avec vous Alexis, on vous retrouvera tout à l'heure pour le journal régional et sans doute en cours d'émission.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous, effectivement le journal est prêt puis je reste à vos côtés.
Une émission spéciale avec monsieur Olivier Branduy, il est recteur de l'Académie de Reims. Olivier Branduy, bonsoir.
Bonsoir monsieur Benoît.
Merci d'être en direct avec nous dans notre studio ici de RCF. C'est vrai que l'actualité en ce qui concerne le monde éducatif est assez chargée. Effectivement, il y a toujours la situation sanitaire, la vaccination des enseignants, le Parcoursup, et puis des priorités académiques, et puis des sujets qui vont venir en cours d'émission. Et puis, il y a, puisque nous sommes maintenant le 6 mai, il y a toujours des préoccupations que les jeunes ont, et parfois les parents peut-être encore plus qu'eux, ce sont les fameux examens. Et dans ces examens, il y a bien sûr le brevet des collèges, et aussi le bac. Et parmi les nouveautés du bac, il y a le fameux grand oral, qui peut d'ailleurs faire peur parce que c'est une nouvelle épreuve. Olivier Branduy, vous allez sans doute, à juste titre, dédramatiser cette épreuve, ce grand oral.
Je crois qu'il le faut, monsieur Benoît. Effectivement, c'est une nouveauté. Hein. C'est la fin d'un cycle, ou le début d'un nouveau cycle, plus exactement, puisque le bac réformé arrive à maturité cette année. Et c'est la première fois que cette épreuve de grand oral va se dérouler. Je comprends que nos jeunes, nos élèves, leurs parents également s'interrogent sur la façon dont l'examen à la fois va se dérouler, sur les conditions de préparation, sur... Mais oui, il faut évidemment dédramatiser. Je crois que c'est une chance pour nos jeunes que de pouvoir se saisir de cette occasion pour montrer comment ils maîtrisent leurs paroles personnelles, comment ils posent leurs questions, comment ils les défendent, comment ils argumentent, comment ils prennent du recul par rapport à cette argumentation. Donc il y a ici une belle occasion de démontrer des compétences qui finalement jusqu'à présent étaient, mais ponctuellement, évaluées.
Et vous, en plus, en tant qu'universitaire, vous savez sans doute mieux que quiconque que ce genre d'épreuves, on les retrouve ensuite dans l'enseignement supérieur et puis aussi dans la vie courante, dans un entretien d'embauche, dans un concours. Sûr. Être à l'aise à l'oral, c'est quand même important.
Oui, c'est effectivement une compétence qui, aujourd'hui, qu'il faut maîtriser. Elle est absolument incontournable dans notre société moderne, une société de communication. Effectivement, c'est une belle préparation pour nos jeunes, pour l'enseignement supérieur et comme vous venez de le dire, pour leur insertion professionnelle à terme. Ils seront nécessairement amenés à faire des présentations dans leur poste, hein, dans leur emploi par la suite. Ils seront animateurs de réunions de travail, de groupes d'expression, voilà, ils seront nécessairement communicants. Alors, être un bon communicant à l'écrit, c'est une chose. Et puis, communiquer à l'oral, vous le savez bien, monsieur Benoît, c'est un autre métier.
Alors, c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé, il y a maintenant presque 6 mois, vous n'avez pas ménagé le nombre de déplacements. Vous aimez le terrain, aller à la rencontre de ce qui se passe avec les enseignants, les personnels de direction, les personnels de service, mais aussi, bien sûr, les élèves. Alors je crois que d'ailleurs, à propos du grand oral, vous étiez sur le terrain aujourd'hui.
Oui, j'étais à Vitry-le-François ce matin, au lycée François 1er, qui est un lycée polyvalent, vous savez, avec une section générale et technique et puis une section d'enseignement professionnel.
Vous avez trouvé des élèves inquiets ?
Non, j'ai trouvé des élèves très honnêtement sereins. Alors c'était très intéressant, j'ai vu des secondes et j'ai vu des terminales, donc je vais vous parler des terminales plus précisément. C'est une classe de terminales technologiques. Une section STI 2D, c'est-à-dire sciences, techniques, ingénierie, développement durable. Donc des jeunes qui étaient en préparation du grand oral avec leur professeur, M. Carton. Alors c'était une classe qui était intéressante à plusieurs titres. D'abord pour la thématique, hein, effectivement, préparation du grand oral, premier point. Et une classe également hybride, c'est-à-dire qu'on est en demi-jauge, donc vous avez des élèves qui sont présents dans l'établissement et d'autres qui n'y étaient pas. Alors, ce que j'ai vu, ce sont des jeunes qui travaillaient en groupe, donc sous la direction de leur professeur. Ils étaient dans la phase où il s'agit de définir finalement les questions avec lesquelles on va se présenter devant le jury, puisque c'est quand même une phase très importante que d'arriver à poser une bonne question avant de pouvoir y répondre. J'ai envie de dire même l'essentiel est sûrement dans le choix de la question. Et c'est un travail qui n'est pas évident, je le reconnais. Donc, chaque jeune, hein, dans chacun des groupes que j'ai vus, était dans une phase différente, finalement, de ce travail-là. Ils polissaient, finalement, leur question qui part à la base d'un champ qui les intéresse, qui les passionne. Parce que l'idée, là aussi, c'est d'avoir une approche personnelle de la question. Alors, pour vous donner un exemple très concret, j'avais un élève de terminale qui s'intéressait à une question que moi, j'ai trouvée difficile. La musique, art ou science. Bon. Donc, c'était intéressant de voir comment il se saisissait du sujet, comment est-ce qu'il arrivait à le problématiser, hein, finalement. Finalement, quelles étaient les différentes entrées qu'il trouvait pour essayer d'y apporter une réponse. Alors, moi, je me suis bien intéressé à son travail, et pas que celui-là, je pourrais vous parler d'autres exemples. Hein. Et je lui ai donné quelques conseils. Alors, ce sont des conseils qu'il faut, bien sûr, prendre avec prudence. Hein. Le premier qu'il faut écouter, c'est d'abord son professeur, c'est pas le recteur. Certes, je suis professeur moi-même, mais j'ai été professeur il y a quelques années, donc il faut aller chercher la formation la plus précise à sa source et faire confiance d'abord dans ce que dit son professeur, votre professeur qui vous prépare. Bon, la question doit être effectivement qui est posée, à mon avis, doit dans un premier temps donner lieu à ce qu'on appelle une accroche. Vous voyez, quand vous adressez un jury, il faut l'intéresser. Donc, musique, art ou science, je ne sais pas l'exemple qui va être choisi par l'élève, mais il faut qu'il saisisse tout de suite l'attention finalement de son jury. Ensuite, il faut dire pourquoi cette question est intéressante, pourquoi elle a été choisie finalement. Et l'intérêt d'une question, ça peut être un intérêt d'actualité, ça peut être un intérêt qui est lié, qui est méthodologique, hein, parce que la question est difficile, donc c'est intéressant finalement de s'en saisir. Donc voilà, justifier son choix. Et puis ensuite, moi, parce qu'on n'a que 5 minutes hein, pour faire cela, moi ce que je conseille aux jeunes, c'est surtout d'essayer de présenter un exposé finalement qui est un exposé construit. Par exemple en deux parties, mais deux parties qui ne sont pas séparées l'une l'autre, mais qui correspondent à une progression intellectuelle. Je vais d'abord vous dire ceci, parce que j'estime que c'est un préalable finalement à ma démonstration. Et puis, dans un deuxième temps, je développerai cet argument-là. Parce qu'in fine, ce que je veux vous dire sur ma question, c'est ceci. Voilà. Donc, finalement, c'est essayer de démontrer qu'on est dans une pensée en action, finalement, qui se développe, qui se construit, avec des parties qui se répondent pour arriver, finalement, à soutenir une thèse. C'est ça, finalement, ce qu'on leur demande. Et ça, je vous rappelle que c'est dans les 5 premières minutes.
Oui, après vient le contenu.
Oui, vient le contenu. Alors sur ces 5 premières minutes, je dois rappeler qu'un aménagement a été proposé par le ministre de l'Éducation nationale. Les jeunes auront sous les yeux finalement leur plan. Hein, d'une certaine façon, ils peuvent avoir des notes en main, ce qui va leur permettre finalement de soutenir leur discours.
Donc ça peut les rassurer. Et ça rassurer les parents en disant « vous avez quand même une feuille devant vous ».
Oui, c'est un filet de sécurité tout de même. Hein, nous aimons les uns et les autres, et j'en suis d'ailleurs, avoir quelques éléments pour pouvoir se raccrocher. Alors, avoir un élément de précision, avoir effectivement un mot-clé qu'on veut absolument placer. Bon, donc, je pense que là, on a un élément de confort, c'est certain. Et puis après, vous avez donc 10 minutes, hein, 10 minutes de questions aussi avec le jury. Où l'idée ici, c'est de montrer qu'on a des connaissances, qu'on a de la profondeur sur le sujet qu'on a traité. Et là aussi, un aménagement a été proposé, puisque les jeunes pourront se servir d'un support pour pouvoir démontrer un élément, finalement, de leur exposé. Alors ça pourrait être un croquis qui sera fait sur une feuille, ça pourrait être un début de formule mathématique, par exemple, ou alors une carte stylisée, enfin des choses de cette nature, vous voyez, qui viendront en appui, finalement, de la démonstration du jeune.
Si on a bien compris ce soir, et ça c'est presque une exclusivité, monsieur le recteur, il y a les conseils des professeurs qu'il faut suivre, vous l'avez rappelé, mais là, vous étiez en quelque sorte un super coach, si je me permets d'être un peu familier, pour donner quand même quelques tuyaux à ceux qui se disent, mais finalement, c'est peut-être pas non plus aussi compliqué si j'ai un cadre, si je sais où je vais, si je sais vraiment montrer aussi que je m'implique.
Alors, il faut vraiment dédramatiser l'exercice. Je pense que si la méthode est comprise, et encore une fois, rapprochez-vous de vos professeurs, je m'adresse directement aux jeunes, ils vont vous donner ces éléments de méthode, ils sont en train de vous les donner. Il y a vraiment une espèce de déroulé un peu typique dans un exposé. Capter l'attention, définir les termes, dire pourquoi c'est intéressant, et dire comment on va défendre sa thèse. Sa thèse, c'est finalement la réponse que l'on souhaite proposer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la partie questions, ensuite, on peut faire un pas de côté et reconsidérer finalement ce qu'on a dit, parce que nécessairement tout exposé est contextuel, hein, contextualisé, il y a des hypothèses, on ne traite qu'une partie du sujet. Donc là aussi, pendant les questions, nos élèves vont pouvoir montrer que, eh bien, ils savent prendre de la distance par rapport à leur discours, qu'ils sont capables d'écouter les objections qui leur sont faites, de s'en saisir. On va leur tendre des perches, en fait, hein, très certainement, pour parler d'une façon un petit peu légère, et qu'ils s'en saisissent pour montrer justement ce qu'ils ont acquis comme connaissance.
Les enseignants eux-mêmes ont suivi une formation, oui. Et vous leur donnez quand même, si je suis un peu caricatural, comme consigne d'être quand même très à l'écoute, parce que un élève, les parents peuvent entendre en ce moment, qui est un petit peu intimidé, bah on va essayer de le remettre en confiance d'une certaine façon.
Oui, le maître mot, c'est la bienveillance. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, un maître mot qui n'est pas lié spécifiquement à la période Covid. L'enseignant, le pédagogue, se doit d'être bienveillant. Et c'est vrai que c'est un examen. Donc, pendant un examen, je pense que chacun doit se rappeler que l'élève est nécessairement un peu stressé. C'est d'ailleurs très bien. Hein, le stress nous permet de déclencher un peu d'adrénaline, hein, dans notre corps, ce qui nous oblige à nous concentrer, à nous fixer un objectif et à nous tendre vers cet objectif-là. Donc ça, c'est du bon stress. Et bon, le jury le sait et je pense qu'il est là aussi pour accompagner les jeunes dans cet exercice. Hein, tout professeur voit bien, à un moment donné, un élève qui a du mal à trouver ses mots ou à retrouver ses idées. Hein, Il est dans sa pratique professionnelle. Ça fait partie de ses gestes quotidiens que de lui tendre la main à ce moment-là pour l'aider à reprendre le fil de son discours et le porter vers la réussite, en fait. Ce qu'on veut, c'est mettre nos jeunes en condition de façon à ce qu'ils puissent démontrer toute la richesse de ce qu'ils ont appris et toute leur richesse personnelle.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le cadre d'une émission spéciale avec RCF Cœur de Champagne du côté de Châlons, Épernay, Vitry, mais aussi avec RCF Reims-Ardennes, évidemment, à Charleville-Mézières, Sedan, Rethel, et puis aussi, Alexis, à suivre en vidéo.
Évidemment, sur la page YouTube de RCF Reims-Ardennes, on peut joindre l'image avec le son et retrouver le recteur de l'Académie de Reims, M. Olivier Bronduit.
Donc, on vient d'évoquer le grand oral, M. le recteur, mais évidemment, la situation sanitaire, on a l'impression qu'on est en train un petit peu de sortir de la situation qu'on a connue, puisque les mesures d'ouverture des terrasses, par exemple, ça sera pour dans quelques jours, le couvre-feu, ça sera des heures un peu plus tardives, la limite des 10 km, elle n'existe plus. Alors comment ça se passe? Comment ça s'est passé? On peut revenir très rapidement sur cette situation, la reprise dans les écoles depuis le 26 avril et dans les collèges et lycées depuis quelques jours, depuis lundi.
Oui, alors je vais vous en dire quelques mots, mais permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont été éprouvés par la maladie ou bien souvent par le décès d'un de leurs proches. Et également, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos personnels de santé en général et nos personnels de santé de l'éducation nationale qui ont été absolument formidables pendant toute cette période, hein, et dont la mobilisation de chaque instant, le week-end, souvent tard le soir, enfin, sans compter leurs heures, doit vraiment être saluée. C'était là je pense, vraiment un mot de gratitude que je leur adresse, vraiment au nom de toute l'Académie. Alors, la rentrée des congés de printemps s'est bien passée, s'est bien déroulée. J'ai visité aussi un certain nombre d'établissements. J'étais à l'école Louvois, qui est une école de Reims. J'ai vu à la fois l'élémentaire et la maternelle. J'ai pu discuter avec des parents d'élèves. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des enfants, des jeunes, des élèves qui étaient d'abord heureux de retrouver leur maître ou leur maîtresse. Heureux de reprendre finalement leur rythme d'apprentissage. J'ai vu aussi des parents d'élèves que j'ai trouvés sereins, finalement heureux aussi de reprendre ce contact direct avec l'école. Donc vraiment, bon, il ne faut pas minimiser la période par laquelle nous passons les uns et les autres. Hein. Il faut la prendre avec sérieux, c'est certain, mais avec sérénité aussi. On fait vraiment beaucoup pour assurer à nos élèves des conditions d'éducation qui soit aussi protectrice que possible.
Le protocole sanitaire est strict, monsieur le recteur.
Oui, mais
ils ont les masques.
Les masques, on évite les brassages, la distanciation, on prend un soin tout particulier à ce qui se passe pendant le temps de restauration scolaire. Oui, le protocole en lui-même, si vous voulez, est un protocole qui est effectivement extrêmement sérieux et qui est très bien respecté. Ce qui explique certainement pourquoi, finalement, le milieu scolaire a toujours été identifié comme un milieu, alors, il faut parler là aussi avec précaution, mais relativement sain pour nos jeunes. En tout cas, certainement plus sain que ce qu'on pourrait retrouver alors que ces protocoles ne sont pas strictement respectés. À ce protocole, il faut aussi ajouter finalement tout ce qui est fait aujourd'hui pour avoir une surveillance de la circulation du virus dans nos établissements. Et vous savez, nous avons une stratégie, hein, une stratégie qui est définie par le gouvernement, mais que nous appliquons très précisément ici dans notre Académie de Reims, qui est une stratégie qu'on appelle la stratégie TAP. Il faut tester, alerter, puis protéger. Alors, pour en venir aux tests, simplement, nous avons une pratique des tests qui est maintenant déjà ancienne. On avait commencé, rappelez-vous, avec ce qu'on appelait les tests antigéniques, les tags, avec un écouvillon qu'il faut... passer par le nez, hein, et c'est pas toujours très agréable, mais ça permet d'avoir une lecture très précise de l'infection d'une personne.
Et ça a évolué, il y a eu d'autres types de tests.
Effectivement, donc c'était pas des tests qui étaient praticables sur nos plus jeunes enfants. La deuxième phase, ou le deuxième étage de notre fusée, ça a été les tests salivaires. Tests salivaires qui ont été déployés en très grande quantité dans l'académie, avec des disparités géographiques, il faut le reconnaître, parce que pour arriver à faire ces tests salivaires dans nos écoles, nous avons besoin de laboratoires d'analyse, tout bêtement. Et la situation, la capacité des laboratoires à traiter ces tests, elle est différente selon les départements. Par exemple, les Ardennes ont la chance d'avoir un laboratoire qui peut tester des milliers de jeunes tous les jours. Voilà, c'est pas un problème pour eux. Dans l'Aube, la situation est plus compliquée. Donc, on a des disparités régionales, mais bon, les tests salivaires, nous les ciblons sur des écoles ou sur des zones où on pense qu'une circulation virale peut être présente et problématique. Donc, on arrive à trouver des arrangements, parce qu'il y a de la solidarité aussi entre les départements. Par exemple, une partie des élèves de la Marne sont testés donc dans les écoles, mais le laboratoire, lui, est dans les Ardennes. Donc il y a un peu de solidarité, vous voyez, ce qui nous permet de déployer finalement une stratégie de couverture qui est finalement performante et bonne.
Et ces tests salivaires ont révélé finalement peu de cas finalement de jeunes.
Très peu de cas, mais chaque cas trouvé, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de casser les chaînes de contamination. Et vous avez vu là aussi que le protocole a été renforcé puisque dès le premier cas maintenant pour un enfant positif, la classe est en éviction. Donc c'est une méthode qui est radicale, hein, qui permet de couper très rapidement ces chaînes. Et on ne peut que s'en féliciter, évidemment. Et puis le troisième étage de la fusée, si vous me permettez, monsieur
Bien
Benoît,
sûr.
Ce sont donc les autotests. Donc les autotests dont ont été pourvus les professeurs des écoles, pratiquement dès la rentrée, hein, il y a quelques jours de ça maintenant, et autotests qui sont acheminés en ce moment vers nos établissements du secondaire. Donc avec un principe qui va être le suivant, tous les personnels en contact avec les élèves vont recevoir deux autotests par semaine. Enfin, en fait, ce sont des boîtes de 5, hein, donc on leur donne une boîte et normalement c'est bien pour 2 semaines et demie. Et puis nos lycéens, les jeunes de plus de 15 ans, vont pouvoir également bénéficier de ces autotests après avoir été formés. Hein, on va avoir une petite phase pédagogique avec un personnel de santé dans un établissement. Le chef va organiser ça à sa main, hein, parce qu'il y a une contrainte quand même de locaux et de personnel dont il faut tenir compte. Et donc les jeunes vont être formés pour réaliser tous les gestes, hein, le prélèvement, positionner le prélèvement sur une plaquette, le réactif doit être apposé également. Donc ça demande un peu de pédagogie, et puis eux auront la possibilité donc de s'autotester une fois par semaine.
Monsieur le recteur, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 19h, mais on approche de 18h30. On va se retrouver, on a évoqué avec vous le grand oral et nous avons eu des explications et même nous avons eu peut-être quelques petites formules secrètes pour savoir comment se comporter. Je pense que même il y a peut-être certains parents qui prennent des notes, on ne sait pas. Et puis on a évoqué la situation sanitaire, on y reviendra avec la vaccination et avec les test. Mais tout de suite, il est 18h30, l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claude Retz qui est avec nous.
RCF, le journal.
Avec les titres de cette édition, retour sur la visite de Pierre Ngan, préfet de la Marne, au centre de vaccination de Châlons-en-Champagne ce midi. Faire don de vos produits pharmaceutiques, c'est possible avec l'armoire à pharmacie solidaire. Rencontre avec Céline Véraud de l'officine du boulevard de la Paix à Reims.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claude Retz.
À l'occasion de l'ouverture à la vaccination au public prioritaire, le préfet de la Marne, Pierre Ngan, était en visite ce midi au centre de vaccination de Châlons-en-Champagne en présence de la députée Lise Magnier. Avec l'aide de la protection civile, une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires étaient mobilisés ce jeudi pour vacciner près de 2000 personnes contre la Covid-19. Une campagne qui va s'accélérer et se poursuivre, comme nous l'explique Pierre Ngan.
Dans le cadre de la campagne de vaccination, le gouvernement a défini un certain nombre de publics prioritaires, notamment les personnes à comorbidité, les assesseurs pour les élections prochaines et un certain nombre de professionnels en contact avec le public. Pour ces publics prioritaires, nous avons mis en place des dispositifs coupe-fil pour permettre de les vacciner rapidement, d'où la mise en place de ce centre de vaccination dans ce gymnase à Châlons et que nous avons armé par le personnel du SDIS, par les pompiers de la Marne et la sécurité civile qui est venue en renfort pour donner un coup de main. Pour cette seule journée, il y a plus de 1600 personnes qui se sont inscrites et on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris rendez-vous qui sont présentes. Donc on pense que nous visons 2000 vaccinations aujourd'hui. Nous allons refaire cette opération samedi, toujours ici, avec le même objectif de vacciner les publics prioritaires, ce qui permettra très clairement de aussi désengorger les centres de vaccination. Et nous allons répéter cette opération le week-end prochain. Le vendredi et le samedi, à Reims, au centre Renétis, nous allons faire la même opération, 2000 vaccinations jour, vendredi et samedi, pour les publics prioritaires. Et bien entendu, nous invitons ceux qui sont en liste d'attente dans les centres d'essayer aussi peut-être de s'inscrire. Ça permettra de servir le maximum de personnes pour réguler un tout petit peu les centres de vaccination qui sont un peu saturés.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Près de 2000 personnes ont été vaccinées avec le vaccin Moderna. En dehors de cette campagne, le département de la Marne compte aujourd'hui 140 000 premières injections, dont la moitié venant du bassin rémois, 32% venant du vaccin AstraZeneca et 1 millier du vaccin Johnson & Johnson. La préfecture se donne comme objectif de passer de 20 000 doses par semaine à 30 000 doses en ouvrant deux grands centres de vaccination à Reims et Châlons-en-Champagne. La liste des candidats au renouvellement des 23 cantons du Conseil départemental de la Marne est connue depuis ce matin. Le président sortant se représente sur le canton de Dormans. Selon les cantons, ils sont de 2 à 5 binômes à solliciter vos suffrages. Au total, ils seront 80 binômes à se porter candidats pour les dimanches 20 et 27 juin prochains. Jean-Pierre.
Oui, à noter que pour les élections régionales, Madame Brigitte Klinkert a présenté hier, et vous l'avez entendu sur notre antenne, les têtes de liste dans les différents départements. Dans les départements des Ardennes, vous avez pu entendre le candidat Miguel Leroy qui sera tête de liste dans les Ardennes. Demain, c'est le président Rottner qui seront à Charleville-Mézières. La tête de liste devrait être Boris Ravignon dans les Ardennes et Arnaud Robinet à Reims.
Depuis plus d'un an, la pharmacie de Céline Véraud est équipée d'une armoire à pharmacie solidaire. Le but de l'opération, c'est de faire un don d'un produit pharmaceutique. L'officine du boulevard de la Paix à Reims a choisi de concentrer sa récolte de dons en produits pour bébés. Un reportage de Lucie Philippot.
Impossible de ne pas la voir, l'armoire à pharmacie solidaire trône dans l'officine de Céline Véraud. Sa pharmacie fait partie du groupe Well Pharma, qui a décidé de participer à cette opération d'armoire solidaire visant à aider les plus démunis et soutenir les associations locales. La propriétaire de la pharmacie a choisi SOS Bébé, un organisme qui vient en aide aux jeunes parents démunis.
Les gens choisissent un produit tel quel qu'il soit, alors en rapport avec les bébés. Là, plutôt produits de toilette, lait, éventuellement poudre, sérum physiologique, dentifrice, enfin, des petites choses comme ça. Parce que c'est jusqu'à l'âge de 3 ans.
L'association SOS Bébé récolte chaque mois une cinquantaine de dons des clients de la pharmacie du boulevard de la Paix. Didier Haguenois, directeur de l'association, a besoin de dons particuliers qui sont nécessaires et importants.
On a surtout besoin, au niveau alimentaire bien sûr, du lait maternisé, puisque c'est quand même quelque chose qui fait que plus on grandit bien et mieux on est en forme plus tard. Donc le lait maternisé en priorité, mais également des lingettes, également des produits d'hygiène et d'entretien concernant le nourrisson, tout ce qui peut être matériel de couche également, et autres lingettes qu'on peut trouver dans les commerces divers et variés, et d'autant plus dans les pharmacies qui sont de bonne qualité, de grande qualité. Et on a surtout besoin d'alimentation, petits pots, lait maternisé, et couches, j'irai en troisième partie.
Plus de 600 bébés sont aidés chaque année grâce à l'association. Dans la Marne, c'est chaque année plus de 8 tonnes de matériel de puériculture, de petits pots, de potages et produits laitiers distribués. C'est aussi 40 000 couches et 4 500 boîtes de lait maternisé.
Tout le monde peut donner, tout le monde peut être amené à avoir quelque chose qui traîne chez soi, qui concerne les bébés. Voilà, SOS Bébé est là pour les récupérer. Ça peut être aussi un don financier. Exonéré d'impôts en plus, qui n'est pas inintéressant. Donc les entreprises et particuliers peuvent se mobiliser et puis nous faire don de matériel, d'alimentation, de toutes sortes qui tournent autour de l'enfant.
SOS Bébé œuvre dans toute la Marne par le biais de 6 antennes de distribution à Reims, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, Fismes, Suippes et Épernay. L'association compte actuellement une trentaine de bénévoles qui aident, écoutent et conseillent les parents.
Un reportage réalisé par notre stagiaire à la rédaction de RCF France-Ardennes, Lucie Philippot, 18h36, passé de 20 secondes exactement. Notre émission spéciale avec le recteur de l'Académie de Reims, Monsieur Olivier Branduit, se poursuit. C'est au micro de Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19, Jean-Pierre Benoît.
Toujours en direct dans cette émission spéciale, on remercie Monsieur le recteur d'avoir fait le déplacement ici dans notre studio de Reims pour cette émission régionale. On a évoqué avec vous, Monsieur le recteur, le grand oral tout à l'heure, la situation sanitaire avec une reprise qui s'est bien déroulée dans les écoles le 26 avril et dans les collèges et lycées le 3 mai avec les tests, cette fusée à 3 étages que vous nous avez proposée. Donc tout ça, ça reste quand même pendant les semaines qui viennent, on sent bien quand même une préoccupation majeure avec la vaccination également des enseignants. Ce sont des sujets qui vont rester d'actualité pendant quelques semaines encore.
Très certainement. Alors la vaccination pour les personnels qui travaillent dans nos établissements, parce qu'il faut avoir une vision
pas seulement les enseignants. Oui.
Pas seulement les enseignants. Voyons, ce serait extrêmement curieux et malvenu que de limiter les possibilités de vaccination prioritaire aux seuls enseignants. Nous avons aussi des ATSEM, nous avons des AESH, nous avons toutes sortes de personnels qui finalement évoluent au contact de nos jeunes. Il faut leur proposer évidemment une vaccination prioritaire. Et on le fait chaque fois que de possible avec de la souplesse. C'était quand même compliqué, si vous voulez, de proposer une vaccination à un personnel et à l'autre, au prétexte qu'il verrait un peu moins souvent les élèves, de ne pas le lui proposer aussi. Donc il ne faut pas en avoir une lecture trop stricte. Donc moi j'appelle un peu de bon sens pour cette opération. Alors c'est une opération qui est compliquée. Nous avons, vous savez, le ministère de l'Éducation nationale fait face aujourd'hui à des défis logistiques qui sont assez formidables. Pour la vaccination spécifiquement, moi ce que j'ai souhaité, c'est que nous ayons une réponse qui soit une réponse éducation nationale de façon à venir compléter celle qui est organisée par les préfets.
Oui, comme tout venons d'entendre Pierre Engane.
Oui, alors Pierre Engane, le préfet de la Marne avec lequel je travaille avec beaucoup de plaisir, et qui nous a fait finalement décoller immédiatement, puisque dès que la vaccination prioritaire pour les personnels de plus de 55 ans dans l'éducation nationale a été déclarée finalement, le préfet Engane nous a permis d'avoir une chaîne finalement ou une priorité à Reims. dans la caserne des pompiers du 10-51 à Chaussée Bocquène. C'était le 17 avril, je me suis rendu sur place pour soutenir les équipes qui étaient là, pour saluer les pompiers volontaires, pour voir comment tout cela était organisé aux côtés du préfet. C'était une opération qui a bien fonctionné. On a eu beaucoup d'enseignants et de personnel qui travaillent dans nos établissements qui sont venus recevoir une dose d'AstraZeneca. La situation dans les quatre départements doit être là aussi comprise comme étant inégale. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est face à un archipel de possibilités de vaccination. Il y a bien sûr les vaccinodromes, il y a les opérations de masse qui sont proposées par les préfets. Il y a aussi toutes les possibilités de se faire vacciner selon son âge, selon sa situation de santé, par un personnel de santé en ville. Il y a bien des possibilités, finalement. Il n'empêche que...
Vous, l'Éducation nationale, vous avez souhaité avoir un caractère spécifique propre pendant cette vaccination.
Oui, alors nous avons appris en fait pendant cette première période. Je dis première période parce que vous voyez que l'âge finalement pour la vaccination décroît. C'est-à-dire que là maintenant nous sommes aux portes d'une vaccination pour les personnels de 50 ans et plus. Et mi-juin, ce sera finalement pour toute la population. Donc dans cette population, on a une priorité pour les personnels donc travaillant dans nos établissements. Ça fait sourire certains disant mais enfin nous ne sommes pas plus prioritaires que les autres. Si, ils le sont. Ils le sont parce qu'ils ont un coupe-fil. Ça veut dire que si la vaccination est ouverte pour les plus de 50 ans, et que vous avez effectivement plus de 50 ans, mais que vous êtes l'Éducation nationale, vous passerez finalement plus vite que les autres. Alors, pour pouvoir répondre finalement à l'augmentation très importante finalement du nombre de personnes qui vont devoir recevoir une dose de vaccin. Moi, j'ai souhaité qu'on apprenne, dans cette période relativement calme, en étant en capacité de déployer nos propres chaînes de vaccination, Éducation nationale, dans nos établissements, pour nos personnels. Et c'est ce que nous avons fait, notamment dans la Marne. Mercredi dernier, encore, au lycée Brière, il y avait une chaîne de vaccination avec nos personnels de santé qui étaient là pour administrer ces doses. Alors, avec l'appui, là encore, pas mercredi dernier, mais ils avaient appris aussi avec les pompiers. Donc, vous voyez, c'est une belle collaboration entre différents services de l'État. Et je vous le disais, nos personnels de santé dans l'Éducation nationale sont vraiment assez, assez incroyables. D'abord parce que je ne leur donne pas d'ordre. C'est-à-dire que je fais des appels au volontariat. Et je suis à chaque fois profondément ému en voyant finalement la réception de cet appel au volontariat. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup en fait, d'infirmières scolaires, ce sont plutôt des dames, qui sont mobilisées, qui se mobilisent volontairement pour se déplacer, parfois loin de leur établissement, pour réaliser ces opérations. Mais je pense aussi à tous ces personnels de santé scolaire qui restent dans leurs établissements et qui permettent justement à ces volontaires de pouvoir se déplacer. Alors, ce ne sont pas les volontaires contre ceux qui ne le sont pas. Là, c'est vraiment un élan collectif qui permet à la fois d'assurer des missions quotidiennes, puisqu'il faut se rappeler que nos jeunes... éprouvent quand même des difficultés aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir un accès à une personne qui peut les écouter, qui peut les conseiller. Il y a des problèmes de santé aussi qui doivent être couverts. Bon, donc vous voyez, il y a cet aspect-là qu'il faut continuer à assurer. Et puis il y a effectivement cet effort supplémentaire à aller porter finalement des tests, des vaccins là où cela fait besoin.
Aller vacciner sans pour autant déserter leur établissement parce que l'établissement justement, il continue son travail, son chemin.
C'est tout un équilibre. C'est tout un équilibre. Je vous avoue que ce n'est pas forcément la chose la plus simple à imaginer. Mais cet équilibre, on arrive à le trouver aussi parce que nous avons des services. Alors ça, on en parle bien sûr très très peu, mais tout un tas de services support, si vous voulez, dans l'Éducation nationale, qui permettent d'organiser cela, notamment dans chaque direction départementale des services de l'Éducation nationale. Nous avons un infirmier ou un médecin qui est finalement référent, qui est un conseiller technique, qui va organiser tout cela. Et puis nous avons des inspecteurs de l'Éducation nationale qui s'occupent de la distribution des autotests, par exemple. Nous avons finalement énormément de personnes qui sont mobilisées, qui sont finalement invisibles. Mais là aussi, moi, je veux leur donner un coup de chapeau parce que ces personnes travaillent, vous n'imaginez pas. Enfin, c'est quand même assez formidable de voir... Enfin, c'est formidable. c'est formidable. Ça me, disons que moi, ça me touche profondément de voir des gens qui travaillent jusqu'à 22h, 23h pour organiser tout cela, sans jamais finalement se plaindre, parce que voilà, c'est un effort collectif national, et je suis très fier de ce que fait l'éducation nationale en ce moment.
D'ailleurs, me permets avec Alexis de faire une petite incidence, puisque ça fait à peu près 6 mois que vous êtes arrivé. On sent que maintenant que vous connaissez un peu mieux l'académie, même si les conditions de déplacement n'ont pas toujours été comme elles auraient pu l'être en période normale. On a l'impression que cette académie de Reims, j'allais dire de Givet jusqu'au fin fond, ce n'est pas familier, mais au fin fond de la Haute-Marne, vous êtes heureux dans ce territoire.
C'est vrai, je vous l'avais dit en arrivant, j'étais déjà heureux de venir dans l'académie de Reims, et plus je la découvre, plus je l'aime. Je trouve qu'elle est... Elle est pleine de talents, les personnes avec lesquelles je travaille, les jeunes que je rencontre, les professeurs qui m'expliquent leur pédagogie, les différentes catégories de personnel qui échangent avec moi, qui ont cette gentillesse-là de me dire un peu de leur réalité quotidienne. Je les trouve à la fois extrêmement sérieux, très humains, très professionnels et vraiment habités par leur mission. Bon, je m'attache de plus en plus à la région, c'est certain.
Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est une émission spéciale, vous l'avez compris, avec le recteur de l'Académie de Reims, M. Olivier Branduit, qu'on retrouve également, Alexis, sur les réseaux sociaux et sur, bien entendu, YouTube, Facebook, etc.
Notamment sur la page YouTube de RCF Reims-Ardennes, et puis le lien qui sera ensuite partagé sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Twitter, @RCFRA pour le Twitter, @RCF Reims-Ardennes pour la page Facebook.
On a parlé de la crise, bien sûr, sanitaire, de la vaccination, mais évidemment, les cours se poursuivent, que ce soit en présentiel, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec un professeur en face de soi, ou avec un peu à la distance, donc en distanciel. La visio, comme on dit aujourd'hui un peu familièrement, elle est utilisée constamment. On sent que c'est un outil extraordinaire, parce que ça permet de réaliser un certain nombre de choses. Mais quand on interroge parfois les enseignants et les élèves, ils disent à chaque fois... On aime bien revenir quand même et avoir un professeur en face de soi.
Écoutez, la pédagogie, l'enseignement, c'est d'abord une affaire humaine. Et il est vrai que lorsqu'on a un filtre, un écran, une vitre finalement, une distance, on perd quand même beaucoup. L'interaction de groupe, l'émulation, l'écoute de l'autre. Il se passe tellement de choses finalement qui sont difficiles à décrire dans une séquence, dans un cours. Évidemment, ça, on le perd fatalement un peu avec l'enseignement à distance. Pour autant, et aussi imparfait qu'il puisse être parfois, parce qu'il ne faut pas nier que des difficultés ont été rencontrées, c'était quand même tout à fait utile dans cette période. Passer, par exemple, en demi-jauge, dans un lycée, je vous rappelle que la demi-jauge, ça s'apprécie au niveau d'un établissement. Donc certains peuvent être présents assez souvent, finalement, dans l'établissement, ce qui veut dire que d'autres le sont un peu moins. Bon, ben, il faut garder un lien avec ses enseignants, il faut continuer, finalement, à développer ses compétences, ses connaissances. Et c'est vrai que ces outils numériques ont été vraiment très utiles. Maintenant, peuvent-ils se suffire à eux-mêmes? Je ne le crois pas. Et je pense que très peu d'enseignants défendraient une thèse différente. C'est important, effectivement, c'est très utile. Ça permet de développer, curieusement, certaines compétences auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Peut-être un petit peu plus d'autonomie, peut-être un petit peu plus, effectivement, l'analyse de ses propres difficultés, un peu d'auto-réflexivité d'une certaine façon.
Monsieur le recteur, Alexis, vous êtes allé un peu sur le terrain et vous avez interrogé aussi certains jeunes. Alors il faut dire que c'est des jeunes qui nous aident ici à la radio. Donc
ils sont bénévoles de la radio,
investis au quotidien. Représentatifs de l'ensemble des élèves de l'académie. En plus, vous êtes allé chercher des élèves de l'enseignement privé, mais il y a bien sûr des élèves de l'enseignement public qu'on reçoit régulièrement ici en stage. Donc là, c'est un jeune qui s'appelle Gabriel, qui fait des émissions de sport, donc que vous connaissez.
Mais surtout qui est du coup élève en seconde et qui, comme tout le monde, a bien vu ses cours à la fois en présentiel et distanciel, cet enseignement hybride, et il nous explique comment ça s'organise à l'intérieur de son établissement et puis comment il ressent ça, lui, en tant qu'élève.
Et en fait, ce sont des semaines qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a pu connaître depuis ces horaires aménagés, depuis le mois de janvier, etc. Où alors on a un système qui est hybride, donc avec présentiel, distanciel, où quand on est en classe, on suit le cours normalement, et quand on est à la maison, eh bien certains profs font le choix de faire des visios, donc en fait, comme si le cours qui était en classe était retransmis en direct, eh bien pour ceux qui n'y sont pas, et pour les profs qui ne font pas de visio, eh bien ils nous envoient les devoirs, et puisqu'il a été travaillé en classe durant les quelques jours pour l'autre groupe, eh bien, pour pouvoir suivre, même si ça reste tout de même plus compliqué de suivre à la maison. Et il y a toujours un petit rattrapage à faire le jour où on revient en classe.
Une réaction, monsieur le recteur ?
Alors, je comprends très bien ce que dit cet élève. Je l'ai constaté ce matin. Je vous parlais de cette classe de STI 2D à Vitry-le-François. C'était aussi très intéressant de voir comment les professeurs, alors c'était pas dans la classe de terminale, c'était dans la classe de seconde, comment le professeur, qui était un professeur de sciences, reprenait finalement ce qui avait été vu à distance dans les semaines passées, justement pour consolider ce qui nécessitait de l'être, fatalement, parce que cet élève a raison, c'est fatalement plus difficile d'être à distance plutôt que voilà, en présence dans un établissement, ça me paraît être une évidence. Donc il faut aussi adapter finalement ces méthodes pédagogiques. Ça veut dire notamment revenir effectivement sur ces périodes où l'élève n'a pas eu accès directement à son professeur.
Et puis pour les élèves, retrouver ses camarades, c'est quand même important dans cette période où on a vu qu'il y avait certains élèves un peu plus fragilisés, c'est peut-être plus vrai pour des étudiants, et qui se trouvent parfois dans des situations... Mais on n'a pas trop rencontré cela, vous avez rencontré des gens un peu perturbés par le manque de, j'allais dire, de relations sociales, comme on dit aujourd'hui.
Écoutez, non, je n'en ai pas rencontré, mais je ne pense pas qu'il faille minimiser ce point-là, sans en faire non plus, comment dire, une menace ou quelque chose qui pèse sur tous nos jeunes. Il ne faut pas nier que la période est difficile pour eux. Hein. Nous avons la chance, effectivement, souvent de nous rendre dans nos établissements pour y travailler. En tout cas, la vie d'un recteur fait que lui ne peut pas être à distance. Donc j'imagine maintenant la vie de nos jeunes, effectivement, chez eux, face à leur écran. Non, c'est certainement une période dans laquelle on a beaucoup de doutes sur son avenir, sur son orientation, sur les examens. Donc moi, j'entends assez bien, si vous voulez, qu'une certaine détresse psychologique puisse s'installer. Et je le sais, hein, vous avez, comme moi, noté que le président de la République s'est déplacé dans notre territoire pour voir... un service de pédopsychiatrie. Alors, je ne veux pas dire que tous les cas qui y étaient en raison de la période que nous traversons, mais tout de même, on sait que la détresse psychologique pour nos jeunes, aujourd'hui, elle est quand même palpable. Elle est palpable et je crois que les annonces du ministre hier allaient aussi dans le sens d'un apaisement et aussi dans le sens de la bienveillance nécessaire et de la bienveillance dont font preuve les pédagogues.
Autre sujet qui pourrait être, mais c'est chaque année la même chose, monsieur le recteur, un sujet de préoccupation, encore une fois, surtout pour les parents aussi et pour les élèves, c'est ceux qui se prononcent pour leur orientation et leur avenir. C'est le fameux Parcoursup. Ah oui. Alors c'est vrai que c'est la même chose dans l'actualité politique, sociale, économique. L'actualité Covid et sanitaire, parfois, a l'impression d'étouffer toutes les autres informations, comme si le monde s'arrêtait. Or, le monde ne s'arrête pas. Les jeunes vont aller demain à l'université. Leur avenir et leur orientation, c'est très important. Où en est-on, monsieur le recteur ?
Alors, ils iront à l'université, et j'en serai très heureux comme universitaire. Ils iront peut-être aussi ils iront peut-être en BTS, ils iront peut-être dans des écoles, ils feront peut-être des diplômes d'art. Enfin, voilà. Il y a effectivement aujourd'hui un choix extrêmement large de formations supérieures qui leur sont proposées. Alors, l'orientation, ce n'est plus comme lorsque j'avais, moi, 18 ans. À un moment, simplement, il fallait se décider, finalement, souvent rapidement. Maintenant, c'est tout un parcours. Donc, l'orientation se prépare depuis des années pour nos jeunes. Ils ont été exposés, finalement, à toutes sortes d'occasions qui leur ont permis de se déterminer, en connaissant mieux les filières, en connaissant mieux les établissements, en participant à des journées portes ouvertes, en ayant des échanges avec des étudiants. Enfin, voilà. Bon, tout ça a été bien évidemment accompagné par les professeurs principaux, par les conseillers d'orientation, par les psychologues de l'éducation nationale. Enfin, il y a vraiment, si vous voulez, il y a vraiment toute une chaîne d'adultes autour d'eux qui les amène à cette orientation. Alors, ils ont finalisé, pour ceux qui sont en terminale, hein, leur vœu et leur dossier Parcoursup le 8 avril. Et là, nous sommes dans un entre-deux, puisque le 27 mai, les résultats vont tomber. Donc ça va être le moment où nos jeunes vont savoir ce qu'il advient d'eux. Et là, ça va être un moment où de nouveau des interrogations, des questions vont ressurgir. Alors, je vous rappelle le numéro vert. Le numéro vert qui va permettre d'apporter un certain nombre de réponses hein, à partir donc du 27 mai. Ce numéro vert, c'est le 0-800-400-070. Voilà, donc tous les jeunes qui ont une question, qui sont mécontents ou qui ne voient pas vraiment comment se sortir d'une situation inextricable, doivent s'en saisir.
0-800-400-070.
Voilà. Donc actuellement, les établissements d'enseignement supérieur, eux, sont en train de faire leur classement. Puisque voilà, si les jeunes ont des intentions, les établissements d'enseignement supérieur ont aussi la main pour choisir hein, parmi les candidats qui s'adressent à eux, ceux qu'ils souhaitent retenir. Donc, il faut rester serein. Le 27, les premiers résultats vont arriver, mais vous vous rappelez que Parcoursup, c'est un système extrêmement dynamique. Donc, vous pouvez être en situation d'attente et le lendemain être appelé finalement dans une formation qui vous intéresse.
Et puis parfois gagner 30 places, mais 50 bien sûr. Places. Il ne faut pas être impressionné par le chiffre de départ.
Non, absolument pas, là aussi. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est rester vigilant et être sur ses moyens numériques, sur son ordinateur, hein, notamment pour consulter au moins quotidiennement les réponses du
Attention,
système.
Attention Alexis, pas de panne d'ordinateur. Hein. Vous savez que c'est dangereux en ce moment.
On est vigilant.
Barca.
Voilà, il faut être vigilant et peut-être faire preuve d'un petit peu d'anticipation en se disant, bon voilà, si finalement ce choix se concrétise pour moi, quelle va être ma position par rapport à cette possibilité ? Je prends, je décline. Parce qu'il faudra aller vite. Il faudra aller vite parce que les délais finalement pour répondre hein, seront limités, de plus en plus limités alors que le temps passera. Hein, donc là aussi, moi j'appelle nos jeunes à aller chercher des conseils peut-être auprès de leurs professeurs, à anticiper ce qui peut advenir. Et puis donc de rester tout à fait vigilant, tout simplement.
Monsieur le recteur, on aura l'occasion de vous retrouver d'ici quelques, je ne dis pas quelques jours, mais d'ici quelques semaines. L'année n'est pas terminée, ça serait bien qu'à juste avant la fin ou début juillet, on ait l'occasion de vous retrouver la rentrée. Parce que finalement, on imagine qu'un recteur, lorsqu'on est au mois de mai-juin, il commence à avoir en tête déjà depuis quelque temps septembre 2021.
Ah oui. La rentrée se prépare. La rentrée de septembre se prépare à partir de décembre de l'année de moins 1. Donc, vous voyez, il faut effectivement quelques mois pour arriver sereinement à ce grand moment.
Alors, on peut espérer que la crise sanitaire ne va pas nous faire rétro-pédaler et que peut-être cette situation avec la vaccination va permettre d'avoir des établissements ouverts peut-être à 100%. Mais ça, personne ne peut savoir.
Non, il faut rester là aussi très prudent parce que ce virus nous a réservé quelques mauvaises surprises déjà. Alors on peut penser qu'avec la vaccination et l'immunité collective qu'elle va procurer, la rentrée sera certainement plus calme que les rentrées précédentes. C'est un vœu auquel je m'associe évidemment. Mais nous anticipons, nous, tous les scénarios toujours. Donc on s'adaptera. Je crois que l'école a montré qu'elle savait s'adapter depuis des mois. Elle a fait preuve d'une agilité absolument incroyable et je crois que vous me donnez là l'occasion de remercier finalement à la fois tous ces personnels, toute la communauté éducative. Parce que finalement, des personnes qui ont fait des efforts d'adaptation, certes, les professeurs, certes, les élèves, mais aussi nos AESH, nos personnels de direction qui ont été absolument incroyables hein, pendant cette période. Ils ont, eux, opéré la politique et finalement les ajustements au jour le jour dans leurs établissements. Chapeau. Et puis tous ceux que je n'ai pas cités, et notamment les personnels administratifs qui aussi ont dû trouver des astuces pour faire face à cette période-là. Sans oublier les parents, bien évidemment, les collectivités territoriales qui nous ont aussi aidés et qui ont fait preuve de la même agilité.
Monsieur le recteur Olivier Branduy, merci d'avoir été avec nous. Il est pratiquement sur notre cadran 18h59. Dans une poignée de secondes, on retrouvera le journal national de 19h. Alexis, pas d'annonce particulière, même pas une petite page météo ce soir, parce que on se croyait, monsieur le recteur, au mois de mai, mais peut-être même au mois de novembre.
A priori,
et on annonce des températures estivales pour ce week-end.
Pour ce week-end, mais demain, le temps sera encore en transition, donc on risque d'avoir encore quelques nuages nuages qui nous accompagnent pour la journée de vendredi. On verra ce qu'il se produit pour samedi et dimanche. Demain, il faut encore sortir avec le manteau, le cahouet. On sera aux alentours de 10 degrés au meilleur de la journée, Jean-Pierre.
Merci Alexis, merci Monsieur le Recteur encore une fois d'avoir été avec nous. On peut donc vous retrouver sur les réseaux YouTube. Sociaux, sur YouTube bien entendu.
Et puis ensuite on se connecte aussi aux pages Facebook et Twitter et on pourra retrouver le lien de la vidéo.
Merci, merci à tous, à bientôt. Et le Journal National dans une poignée de secondes.